Bonjour camarades auditeurs et camarades auditrices, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Donc il est l'heure de délibérer un petit peu sur l'émission Délibérer avec mes co-animatrices, donc Mariam ce matin.
Bonjour,
bonjour Mariam. Les auditeurs. Et puis Alix. Bonjour Alix.
Bonjour.
Qui s'occupe également de la technique, on la remercie beaucoup. Du coup, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir notre première invitée depuis la création de cette émission, qui est donc Claire. Claire, une camarade documentariste qui va nous faire le plaisir de nous parler de son dernier film documentaire.
Bonjour.
Merci encore d'être là, c'est vraiment une chance de t'avoir avec nous et puis on est sûr que ça va nous apporter beaucoup de matière à notre débat. Nous avons aujourd'hui décidé de parler un petit peu d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est très lié au dernier film que tu as fait, qui revient notamment sur les jardins partagés d'Aubervilliers, les jardins ouvriers d'Aubervilliers. Et si tu n'es pas au sein d'un collectif particulier, en fait, ton attachement au militantisme te vient d'assez loin. Donc voilà, on aura l'occasion de faire un retour à la fois sur le film que tu as fait, sur ton parcours, ce qui t'a amené à faire ça. Aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu d'écologie. Alors pourquoi ? Parce que ces dernières semaines ont été marquées par des temps très forts de lutte écologiste, d'abord à l'étranger, avec les actions choc du collectif Just Stop Oil, dont nous reparlerons tout à l'heure, à l'origine donc des projections de soupe et autres aliments sur tableaux de maître à Londres et Amsterdam, puis en France, avec la manifestation interdite contre les méga-bassines de Sainte-Soline, qui s'est poursuivie par un déballage médiatique assez faramineux. Et enfin, la fameuse et tant attendue COP27 qui se termine aujourd'hui à Sharm el-Sheikh en Égypte, où l'on ne doute pas un seul instant que les grands de ce monde trouveront une solution miracle au réchauffement climatique. Un peu naïvement, je pensais leur proposer d'abolir le capitalisme et l'économie libérale. Mais bon, je crois que en fait, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, on va parler d'écologie nous aussi, mais peut-être voilà, d'une façon qui nous ressemble un peu davantage. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Donc, on va commencer déjà par écouter le témoignage d'une connaissance d'Alix qui va nous présenter en fait son parcours militant, un parcours un peu particulier. Et on reviendra dessus, voir ce que ça fait résonner en nous dans nos propres expériences personnelles militantes. Donc je vous propose d'écouter l'interview de Gabrielle.
Oui, merci. Alors je voulais juste présenter un tout petit peu avant parce que j'ai dû couper le tout début de l'interview qui était de trop mauvaise qualité. Donc voilà, Gabrielle c'est un ami à moi que je connais depuis plusieurs années. Et qui du coup a fait pas mal d'actions militantes écolo. Assez diverses. Il a commencé faire des manifs en France, puis au cours de ses différents stages de recherche, puisqu'il fait des études en sciences de l'environnement et du climat, il a été en Norvège où il a été un petit peu à Extinction Rebellion, où il est resté aussi en France quand il est revenu, et récemment il a participé à des actions avec Scientist Rebellion qu'il va vous présenter pendant l'interview. Voilà.
C'était du 14 au 20 que j'ai participé à ces actions, mais il y en a eu d'autres qui ont eu lieu après. C'était une coalition avec donc Scientist Rebellion, qui est un groupe du coup, plus d'académiques, de personnes de l'université, qui ont décidé d'utiliser la désobéissance civile comme moyen d'action, en considérant que les publications scientifiques et les rapports n'étaient pas suffisants pour mettre en action. Ce collectif a été créé et ils ont eu l'idée de faire des semaines de mobilisation et d'action avant la COP27 qui a lieu actuellement, du coup, pendant le mois d'octobre. Et pour faire cela, l'idée c'était de faire une coalition avec d'autres groupes qui sont aussi investis. Et donc les autres groupes, c'était Debt for Climate, qui lutte pour annuler les dettes financières dans les pays du Sud. Et un autre groupe s'appelle Letzte Generation, qui est surtout basé en Allemagne et qui est un groupe d'activistes assez impressionnant. Et l'idée, c'était de faire ces actions en Allemagne parce que c'est un des plus gros émetteurs en Europe, qui représente un peu l'icône de l'automobile pour tous, et à tout va, partout sur la planète. Et aussi qu'il a un gros pouvoir financier, en fait, ce pays, et un gros pouvoir notamment sur les questions de verrou de dette climatique. Et par ailleurs, c'était assez central dans l'Europe pour que les activistes des différents pays puissent se retrouver. Et il y a eu 4 actions, en gros, sur différents lieux, et à chaque fois avec un message différent à apporter. Et du coup, si peut-être une des choses importantes, je pense, dans ces actions de désobéissance civile, c'est d'une part avoir quelque chose qui choque, qui surprenne, qui soit pas, qui te fasse tourner le regard quand t'es un passant, ou qui puisse t'interpeller, mais d'autre part avoir un message clair et une communication claire, parce que, comme on l'a vu dans les événements récents, les actions qui sont très choquantes, et ben, parlent pas forcément aux gens, et il faut qu'il y ait un message qui soit associé quand même pour que ça relie au sujet, pour que ça fasse sens.
Et du coup, pour toi, enfin, l'action elle-même permet d'être écoutée, et ensuite, par contre, faut être prêt, du coup, à avoir un message clair, mais et par exemple, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées en prison après une autre action, donc c'était après. Et voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ça, de la couverture ou pas médiatique de ce qui s'est passé ?
En fait, toute l'idée de cette campagne, c'était d'arriver à mettre des scientifiques en prison. Ça me paraît un peu absurde, mais vraiment, ils se disaient, voilà, si on arrive à avoir un certain nombre de scientifiques européens qui sont mis en prison de manière absurde, ça pourrait avoir un impact médiatique et ça pourrait réveiller un peu les gens. Et on n'a pas réussi à le faire à Berlin. Après, il y avait des questions de volonté, il n'y a pas tout le monde qui voulait... Enfin, le but, quand tu es activiste, c'est pas d'aller en prison, mais à la fois, le but de la campagne, c'était un peu de faire cette... C'était assez marrant. Mais, en fait, dans chacune des actions, on la prépare ensemble, dans une certaine mesure. On n'est pas au courant de tous les détails, mais l'idée, c'est quand même que chacun trouve la place qu'il a envie d'avoir et qu'il prenne les risques qu'il a envie d'avoir à la hauteur de ce qu'il pense être juste. Et du coup, dans chaque action, il y avait quand même plusieurs groupes avec différentes responsabilités et ouais, différentes aussi... différentes conséquences légales. Dans la première action qu'on a menée, c'était dans un hôtel à Berlin qui hébergeait le Sommet mondial de la santé. L'idée, c'était de tirer littéralement la sonnette d'alarme, la sonnette d'alarme d'incendie de l'hôtel pour interrompre le discours d'ouverture de Olaf Scholz et pour mettre en valeur le fait que en fait, la crise climatique... c'était vraiment un enjeu énorme sur la santé humaine et que c'était pas une des thématiques qui était abordée dans toutes les conférences qu'il y avait au sein de ce sommet sur la santé mondiale. Et d'alerter aussi sur l'incohérence avec les propos politiques de la Scholz en Allemagne. Du coup, ça c'était un peu la métaphore de tirer la sonnette d'alarme et après de porter ce discours. Et pendant cette action, il y avait quand même eu 2-3 personnes qui sont allées... on savait pas trop à ce moment-là s'ils allaient être vraiment mis en prison depuis longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui sont allées en prison, c'était seulement dans la deuxième partie de la campagne qui s'est déroulée plutôt à Munich et en Bavière. Et ce que j'ai appris en allant en Allemagne, c'est qu'en fait, au niveau des règlements pour la police, c'est assez différent selon le Bundesland. Et en fait, apparemment, à Berlin, les règles pour la police sont beaucoup plus progressistes et ils ont le droit de faire beaucoup moins de choses aux manifestants. C'est tout filmé, c'est plus réglementé, alors que par exemple en Bavière, il y a plus de violence régulièrement. Et je pense qu'il y a eu un effet aussi de redondance, quoi. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre et ils voulaient donner une leçon, je sais pas, parce que les actions étaient similaires dans les deux endroits.
Et est-ce que tu penses que ça a été réussi, du coup, cette action? Enfin, est-ce que, déjà, ça, est-ce que vous avez réussi? Et est-ce que le résultat t'a satisfait ou déçu?
Alors, pour moi, c'était vraiment génial au niveau humain, parce que j'ai rencontré vraiment des belles personnes, énormément de solidarité, parce que l'action, c'est pas seulement le moment où t'es dans la rue, t'as l'adrénaline, tu bloques une route, tu te colles quelque part, mais c'est aussi toute la préparation et toute la phase de débriefing. Et là, on avait un local, on pouvait se retrouver. Enfin, c'est toute la partie où on discute, où on mange ensemble et où on noue des liens. Et ça, c'est vraiment fort. Donc, même si une action, elle foire, c'est quand même quelque chose de vraiment chouette. Et c'est en ça que j'encourage aussi les gens à faire des obéissances civiles. Chaque action a eu des débouchés un peu différents, mais au niveau médiatique, on était très contents parce qu'on a réussi à avoir des articles et des vidéos dans pas mal de médias différents en Allemagne pour les premiers jours et chaque jour en fait. C'était ça, on s'est dit que ça serait un peu difficile d'avoir l'attention des médias chaque jour consécutif. Et en fait, ça a assez bien marché et au bout de 2-3 jours, il y avait aussi des articles. Mais pour ça, je pense que c'était pas mal. Et après, je trouvais que la plupart des actions étaient assez bien conceptualisées et assez bien marché. Et j'étais à la fois encore surpris de voir que avec assez peu de personnes, en fait, on peut avoir pas mal de pouvoir sur un temps limité, parce qu'après, avec beaucoup de police, forcément, on peut nous dire. Mais en se disant que si on arrive à motiver plus de gens, finalement, il y a un énorme pouvoir de la population. Avec un peu de stratégie, le deuxième jour, par exemple, on était au ministère des Finances et il y a eu cette idée qui a déjà été faite à deux endroits, mais de réserver une visite guidée du ministère des Finances. Et ils étaient une trentaine en se faisant passer pour une classe de master en économie ou je ne sais quoi. Et au bout d'un moment, ils ont pu juste se disséminer dans le ministère et aller directement au bureau du ministre des Finances pour aller vraiment revendiquer, donner leurs lettres, etc., se coller aux portes et mettre des affiches, tu vois. Mais juste des petites choses un peu ingénieuses qui font que tu peux rentrer dans des lieux de pouvoir apparemment assez aisément. Peut-être que ça va changer. Et c'est chouette de voir la solidarité qu'il y a entre ces différents groupes et de voir qu'au même moment, il y avait plein d'actions en Angleterre, des choses encore plus spectaculaires qui se passent avec Just Stop Oil, dernière rénovation.
Ok, donc ça t'a rendu plutôt optimiste sur notre capacité à faire changer les choses.
à faire changer de manière générale, je ne suis pas encore optimiste du tout, mais plutôt optimiste dans le fait que en se retrouvant avec des gens, on peut avoir pas mal de pouvoir, finalement, de force. C'est peut-être un peu une illusion que je me fais, mais oui, je pense que c'était. Il y a des aspects positifs aussi où, quand on était en dialogue avec les gens, en fait. J'ai l'impression que sur certaines actions qui sont menées actuellement, des gros blocages de routes sur des autoroutes, il n'y a pas ce genre de dialogue qu'on a pu avoir parce que c'est tellement massif, les gens sont super énervés sous le coup de la colère. Mais du coup, ce dialogue, après, il a lieu plutôt dans les médias. Et selon les médias, c'est un bon dialogue ou pas. Et, bah, c'est là où c'est chouette de force
ouais. Et oui, bah, parce que justement j'ai l'impression il y a eu des réactions aussi assez négatives de la part de je sais pas trop quelle frange de la population vis-à-vis de Just Stop Oil avec les œuvres d'art, des gens qui étaient extrêmement choqués de ce qu'on faisait à notre patrimoine, alors même que c'est dit répété qu'il n'y a pas d'œuvre d'art qui a été abîmée, il y avait des vitres, etc. Et beaucoup leur reprochent. Moi, j'étais d'accord avec votre sujet, mais vos moyens m'ont dégoûté. Je veux plus faire partie. Est-ce que c'est de la mauvaise foi de leur part? Est-ce que voilà, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, j'ai vu aussi ces commentaires et je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que juste ils manquent de recul. Et à la fois, c'est eux qui reprochent ça à ces activistes en disant qu'ils ont un manque de recul, que c'est là. Et en soi, je pense que c'est pas une attaque à l'art qu'ils recherchent, mais plutôt à faire parler. Et oui, à montrer des incohérences en termes de prix, pourquoi ça vaut ça, alors qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Les différences de prix, ouais, entre les vies humaines et l'art, tel qu'il est capitalisé pour les pièces très, très, très connues, etc. Mais aussi, il y a un manque un peu de contextualisation dans le fait que, je sais pas, un certain nombre de guerres, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, en fait, détruisent énormément de patrimoine culturel et on n'en parle pas tant. Et bon, il y a eu des expositions là-dessus, il y a des gens qui sont choqués, mais finalement, il y a une question de proportionnalité qui est vraiment explosée, je trouve. on ne se rend pas trop compte de à quel point c'est symbolique et en fait, ça ne représente pas grand-chose vraiment physiquement. Quoi. C'est juste pour interpeller. Du coup, moi, je suis pas mal en soutien en fait, de ces actions. C'est chouette. Je pense qu'il faut les faire dans le maximum de lieux où on peut accéder et qui sont un peu surprenants, quoi, dans les institutions, mais aussi ça serait bien dans la rue, qu'il y ait plus d'événements. Parce qu'au final, un musée aussi, ça touche une certaine frange de la population, mais pas tout. C'est relayé sur les réseaux sociaux, mais il y a toujours ce biais d'arriver à communiquer cette urgence à des populations. On peut pas. Cette mobilisation sur quelques acteurs et militants qui s'essoufflent d'un moment et ça n'a pas de sens quoi. L'idée c'est de communiquer le fait qu'on est dans une catastrophe écologique et que c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. On n'a pas envie de laisser un monde capitaliste diriger ça à notre place quoi.
Et pour toi donc comment trouver plus de monde pour ça? Déjà à travers les actions elles-mêmes, comme tu disais, parce que ça détourne le regard, ça attire le regard des passants et passantes qui peuvent peut-être être tentés de participer à ça. Je sais qu'à un moment on avait discuté d'utiliser l'art, parce que aussi, t'aimes beaucoup l'art, la musique, et que d'essayer de trouver un peu des moyens variés pour que, en fait, finalement, ce soit pas toujours les personnes qui, donc, soit on fait des études liées à ça, soit sont dans des milieux qui sont très sensibiliser à ça ou quoi. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu as des choses à dire ou...
Ouais, un petit peu. Mon ressenti, c'est que du coup, d'un point de vue plus de scientifique, j'ai l'impression que justement le discours scientifique, les communications scientifiques, elles ne servent plus à grand-chose parce que les gens, soit ils n'ont pas le langage, soit ça ne les intéresse pas. En tout cas, le message, il n'est pas transmis de manière efficace. Et du coup, je pense qu'on est un peu dans une impasse avec ce genre de communication. Et je crois beaucoup, en l'art pour communiquer de manière plus efficacement, via les émotions notamment. Et finalement, les actions qu'on a menées et qui sont menées par d'autres groupes, je pense qu'elles ont, cette idée-là aussi, qu'on va choquer ou on va toucher émotionnellement les personnes. Que ce soit par de la joie, de la colère, de la tristesse, et que le fait de répéter ces actions, ça veut dire que les personnes vont potentiellement être soumises à ces émotions une, deux, trois fois, et peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont avoir l'envie de s'intéresser à ce sujet un peu plus, et après, elles vont se faire leur opinion, sans doute. Mais l'idée, c'est que l'émotion a un impact sur le corps, quoi, qui est peut-être plus important que juste le fait de lire une information. Et du coup, je pense que au-delà des actions un peu choc, comme on voit, il y a plein de choses, des projets artistiques qui pourraient naître. Et je pense que c'est un formidable vecteur et j'encourage tous les artistes que je connais à vraiment s'emparer de ces sujets parce que ça peut nourrir plein d'imaginaires. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment important parce qu'on nous donne... globalement, on voit qu'une trajectoire possible. Après, le GIEC, donc, qui s'occupe de faire des projections, ils ont un nombre limité de projections, de scénarios, comme si on avait quatre futurs possibles. Et en fait, bien sûr, c'est des hypothèses et il y en a beaucoup plus. Mais on est toujours limité par des contraintes physiques qu'on utilise dans les modèles de climat, etc. Et en fait, l'art nous permet de passer au-delà de tout ça. Et de dire, il y a ce futur qui est imaginable et enviable, et il y a plein de choses qu'on pourrait juste percevoir d'une autre manière, et je pense que ça donnerait beaucoup plus d'élan positif pour une transition, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un pouvoir de l'art de d'ouvrir les imaginaires, et que c'est hyper important en ce moment.
Et en passant aussi, du coup, pas juste par pas l'imaginaire, mais le réel de la catastrophe qui arrive, mais aussi par l'espoir et des imaginaires plus utopiques, j'imagine. Et oui, ça me fait penser quand du coup quand on s'est rencontrés, tu faisais surtout toi partie d'une asso écolo donc pendant nos études, et voilà, vous aviez une semaine de festival, enfin il y avait aussi pour moi beaucoup c'était une manière pour moi de découvrir que la lutte écolo c'était aussi assez joyeux possiblement, et les actions écolo, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'était quelque chose de de sympa et de plutôt plus agréable que de vivre comme la norme nous l'impose, enfin voilà, entre je sais pas les invendus, la récup, tout ça, et donc
ouais. En tout cas à titre personnel, je trouve que beaucoup de choses collectives sont assez joyeuses, et du coup oui, quand on fait des actions ensemble, juste organiser des événements, Ça demande de l'énergie, mais tu reçois aussi de l'énergie des autres gens, et c'est toujours un moment d'échange. Et c'est vrai qu'on apprend à avoir sa maison propre et son métier personnel, etc., tout de manière unique et individualisée. Et c'est aussi, par exemple, je prône la vie en coloc, par exemple, parce que d'une part, c'est plus écolo, et d'autre part, c'est vachement plus drôle. Et je trouve que c'est très riche, et ça rejoint un peu cet aspect-là où tu peux décider de construire des choses et des projets avec d'autres gens avec qui tu vis.
Voilà. Désolée pour la qualité. Il y a eu des petits problèmes à l'enregistrement que j'ai essayé de régler, mais c'est pas parfait.
En tout cas, on remercie beaucoup Gabrielle de s'être prêtée à l'exercice quand même, parce que on remarque avec une certaine sincérité quand même qu'il nous partage son expérience, et je trouve qu'il y a plein de points intéressants en fait sur lesquels il revient. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un petit retour entre nous pour savoir ce que vous en avez pensé. Moi, notamment, j'ai pu comprendre en fait, énumérer dans son témoignage plusieurs points importants. Il y a la désobéissance civile, son rapport à la désobéissance civile, et je trouve qu'il a une vraie énergie. Alors, il transmet vraiment beaucoup d'optimisme par rapport à cette technique-là, mais surtout aussi par rapport à l'art, et ça m'a un peu plus surprise, parce que j'avoue que je suis beaucoup moins optimiste quant à la proportion de l'art aujourd'hui à se faire vecteur de lutte. Je trouve quand même qu'avec une certaine mondialisation, globalisation de la culture ou ce genre de choses, vraiment l'hégémonie de l'entertainment et tout ça, on n'est pas du tout dans une période créative, artistique qui nous emmène vers la lutte, j'ai pas l'impression. Donc bon, j'aimerais bien avoir votre sentiment par rapport à ça.
Ouais, surtout pour revenir sur ce que tu viens de dire, justement, par rapport à la culture et à l'art, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se capitalise de plus en plus. Parce que forcément, les musées, les œuvres d'art sont détenues par les plus gros pollueurs ou des entreprises, des patrons. Du coup, c'est quelque chose, souvent, c'est quelque chose qu'on a remarqué surtout dans les années 70, où les gens utilisaient vachement la musique, l'art, la peinture pour dénoncer les injustices, plein de luttes. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est faisable, mais en le faisant, t'as l'impression quand même de participer aussi à quelque chose, à continuer à être dans le même système, de où on va capitaliser encore plus ton art, qui va être un vecteur d'enrichissement pour un patron ou un musée ou n'importe quelle autre personne. Et aussi par rapport au parcours de Gabrielle, la désobéissance civique, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un peu le sujet qui m'intéresse, surtout dans les mouvements de militantisme, pour le climat. Mais c'était assez cool de voir que, en fait, tellement les politiques sont tellement inefficaces qu'on est obligé de les choquer pour attirer l'attention sur quelque chose qui est quand même imminente, et il y a une vraie urgence climatique. Mais c'est tellement, et on a l'impression, non, c'est, tout le monde est dans le déni, dans le relativisme. Du coup, il faut aller chercher des solutions, des moyens de lutte pour choquer.
Mais surtout, oui, là, je trouve qu'en fait, finalement, on est obligé de s'inscrire, en fait, nous-mêmes, dans cette politique du spectacle permanent pour arriver à avoir une voix dans ce système-là. Alors, Claire, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est justement le parallèle qui tissait avec lui. Sa profession de scientifique, où entre guillemets lui est légitime de détenir ce savoir et de l'expliquer, et c'est pas lui qui va avoir l'audience pour, donc finalement ça va être quelque chose, l'écologie va être une affaire de communication aussi, pour encore une fois marquer et communiquer sur des faits et non des, je veux dire, des faits imagés et qui choquent des actions et pas sur les faits scientifiques. Donc encore une fois, ça interroge sur la capacité à agir en tant que professionnel, quel qu'il soit, par rapport à nos compétences et à ce qu'on veut dire là-dessus, et à la capacité à être écouté par rapport à ça.
Bah oui, c'est vrai que quand même, se dire quand même que des scientifiques n'ont pas de parole publique valable, alors que ce sont quand même les premières personnes les plus crédibles sur ce sujet, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et je trouve que finalement, ça nous ramène à cette, enfin voilà, cette observation, on va dire, assez classique, mais qui reste malgré tout importante de préciser, à préciser, c'est que le pouvoir aujourd'hui est détenu surtout par les personnes qui ont le plus d'argent, donc les grandes entreprises et évidemment les hauts fonctionnaires qui font allègrement des allers-retours entre le public et le privé. Donc il y a cette idée-là, en fait, que finalement ce sont eux qui ont la mainmise sur tout ce qui est politique, public, environnemental et autres. Et en même temps, ce sont eux qui décident aussi de l'agenda médiatique, en grande partie. Donc c'est vrai que bon, le fait que cette association dont fait partie Gabriel a réussi justement à tenir une des journaux pendant quelques temps, c'est déjà une grande victoire, mais ça montre quand même la difficulté qu'on peut avoir, en fait, à lutter contre ces puissants qui semblent complètement anesthésiés, en fait, par rapport à cette urgence climatique. Et je pense que là-dessus, on peut peut-être enchaîner sur une petite musique de Suzanne qui rappellerait, en fait, à ces grands de ce monde que finalement, non, de planète, on n'en a qu'une et qu'il faut quand même qu'on en prenne soin. Donc voilà, j'aimerais vous emmener à écouter « Il est où le SAV » de Suzanne.
C'est sur ce même cactus, depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Il est où le savait? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
La planète à la tête dans ce chauffeur. La planète à la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois de façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une
tumeur qui ne crée que des cauchemars. Et je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros et dévis sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous écoutez un débat libéré sur des libérés. Donc notre émission, la nouvelle émission donc des luttes étudiantes, animée par moi-même, Mariam ce matin, Alix qui en même temps est à la technique, et avec une invitée, Claire, qui va nous parler maintenant dans cette séquence de son propre engagement militant. Mais alors, son engagement militant, il s'est traduit finalement par aujourd'hui un documentaire que tu as réalisé il y a peu. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps quand même pour en parler. Ce documentaire, il retrace une histoire, donc l'histoire d'un jardinier, des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Et je vais me permettre de faire un petit rappel quand même de ce que sont les jardins avant de te laisser la parole.
Ça oui, va très bien, c'est nécessaire.
Voilà, parce que bon, je pense que beaucoup de personnes sauront déjà, mais je préfère quand même rappeler un petit peu l'historique de ces jardins. Il faut savoir que c'est les jardins ouvriers, l'idée des jardins ouvriers, elle a germé au début des années 1900, donc c'est vraiment quelque chose de très ancien. Bon, pour des raisons qui étaient pas forcément les plus, je trouve, les plus cohérentes, puisque effectivement il y avait l'idée dans le fait d'octroyer des terres à des récents ouvriers qui avaient quitté leur milieu rural donc pour aller à la ville donner leur main d'œuvre finalement à l'industrie. L'idée de leur confier ces jardins, c'était à la base, dans ces années-là, pour les inciter à avoir une vie, on va dire, plus moins scabreuse, de ne pas passer leur temps dans les bars et ce genre de choses. Et donc, de cultiver son jardin, c'était quelque chose, voilà, une idée, un idéal pour les ouvriers qui devait leur être transmis de cette façon. Mais en fait, cette politique-là, elle n'a pas tenu très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu paternaliste, cette façon de voir les choses. Et donc très vite d'autres personnes se sont emparées de cette idée en disant mais non, tout simplement c'est un outil social, c'est-à-dire que ça va permettre à ces personnes-là non pas d'arrêter de mener une vie de débauche, parce qu'en réalité ce n'est pas le cas, mais simplement ça va leur permettre à ces ouvriers précaires de pouvoir cultiver assez, on va dire, de nourriture pour subvenir à leurs besoins dans des moments de détresse. Parce que vraiment, la misère dans les milieux ouvriers vers les années 1920-1930, elle était quand même extrêmement élevée. Et donc, ces jardins, ça avait pour but, à la base, de leur donner cette possibilité, en plus de leur journée de travail, en tout cas, de pouvoir pallier au moins à leurs besoins alimentaires premiers. Du coup, en 1935, les jardins d'Aubervilliers sont créés. C'est créé sur une ancienne zone militaire, donc qui a été, on va dire, qui est considérée comme non constructible, mais sur laquelle est tolérée la construction de petits cabanons qui permet justement l'instauration de ces jardins. Donc, on peut dire qu'à la fois, donc c'est un héritage écologique, parce que c'est un véritable îlot de fraîcheur dans notre ville maintenant très urbanisée. Mais c'est donc aussi un héritage populaire, donc avec ces parcelles qui viennent quand même dans l'idée d'éradiquer, ou en tout cas de minimiser la misère des quartiers populaires de l'époque. Au départ, les jardins étaient assez étendus. Aujourd'hui, c'est vrai que leur superficie est quand même nettement amoindrie. Et surtout, plus de 10 000 mètres carrés de jardins étaient menacés il y a 4 ans, je crois, par la construction d'un complexe pour les Jeux Olympiques qui devait entourer la nouvelle piscine olympique, un complexe avec solarium. voilà, qui devait prendre la place donc de 10 000 mètres carrés de jardin. Ce projet, alors, il a toute une histoire, parce qu'évidemment, là, les jardiniers et jardinières se sont emparés de la question et ont lutté avec beaucoup de motivation pour arriver à défendre leur jardin. Et ils ont, en avril 2021, décidé d'occuper les jardins. Voilà, donc comme une ZAD, mais dans un jardin, ça fait une JAD. Et donc c'était leur territoire à eux, leur territoire à défendre, c'était des jardins, les jardins de Bervilliers, donc jardins à défendre, JAD. Et ils ont réussi donc à tenir ces jardins pendant quand même 6 mois, avec difficulté, mais en se relayant, en organisant des repas collectifs, en occupant en permanence nuit et jour les jardins. Et en septembre 2021, de la même année, le jour de la rentrée, pour éviter qu'il y ait une mobilisation trop grande dans les jardins, ils ont été expulsés. Alors cette expulsion, elle s'est faite de manière très violente, évidemment, puisque les cabanons, toutes les cultures qui avaient été soigneusement organisées et construites par les militants et militantes se sont retrouvées complètement rasées en une matinée. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement choquant, mais ils se sont pas laissés démonter et ils ont continué à militer, notamment en faisant plusieurs recours en justice. Et quelques mois après, en mars 2022, la Cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée en faveur donc de la lutte des jardiniers et a condamné le projet de solarium de la piscine olympique comme n'étant absolument pas légitime sur ce lieu. Donc, du coup, on peut se dire, ouf, finalement, les jardins sont sauvés, c'est magnifique. Bon, très bien. Mais non, parce que chasser un projet urbain écocidaire, vous en aurez un nouveau qui pullule immédiatement après. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les 10 000 mètres carrés de jardin se sont retrouvés à nouveau investis dans un autre projet d'urbanisme pour étendre une gare du Grand Paris Express, qui, toujours pareil, hein, voilà, dans la logique des Jeux Olympiques 2024, vient rajouter plusieurs lignes de métro et des stations à certaines lignes déjà existantes. Donc le combat des jardiniers n'est pas fini, ils doivent encore une fois se remobiliser, mais quand même, on peut dire que là, ils ont gagné quand même beaucoup de crédibilité, puisque même si ce projet d'urbanisme vient tout de même remettre une pièce dans la machine pour eux et réengager un combat, ceux qui avaient été interpellés, arrêtés, et surtout qui avaient dû commencer une procédure judiciaire pour avoir lutté, milité et occupé le jardin, ont été déclarés non coupables donc de ces faits. Ils ont été complètement relaxés, blanchis, graciés par la justice en septembre donc de cette année. Et je peux dire que je pense que ça les a un peu galvanisés. Voilà. Donc tu vas peut-être nous en dire davantage, mais d'abord, parle-nous de ton film. Qu'est-ce que tu as voulu dire de ces jardins dans ton film ?
Oui, déjà, il faut parler un peu des conditions dans lesquelles ce film a été réalisé. C'est dans le cadre d'un festival et la thématique m'était, entre guillemets, imposée, qui était habiter Aubervilliers. Et n'étant pas native d'Aubervilliers ni connaissant cette ville, et étant issue d'un milieu rural, je crois que c'est justement en me baladant dans cette ville, en m'y perdant, que je suis tombée sur ce lieu. Et je crois qu'en tant que documentariste, même si on va toujours vers ce côté d'inconnu et de voyage, on a toujours besoin de se rattacher à quelque chose qu'on connaît et qu'on pourra partager avec nos intervenants. Et là, même si j'étais hors les murs, j'étais dans quelque chose qui me parlait et avec lesquels je partageais un certain nombre de valeurs. Et ensuite, il a fallu trouver quelqu'un pour incarner ses valeurs et cet art de cultiver son jardin. Et je suis tombée sur Jacques. Donc Jacques, c'est la personne que j'ai filmée pendant pratiquement un mois, je dirais, tout ce mois d'octobre, qui est lui un jardinier qui a son jardin depuis maintenant quelques années, depuis qu'il est pensionné en fait. Et il a déménagé justement de jardin. Il était sur l'aile droite qui a été menacée, qui est toujours menacée. Maintenant, il est sur l'aile gauche pour éviter ces menaces toujours persistantes, parce qu'il y a une partie Pantin, une partie Aubervilliers. Donc chaque jardin a des normes différentes. Et en le filmant, j'ai pu découvrir cette culture, et justement cette culture après le jardin, de partage, de rentrer chez soi avec ce qu'on a cultivé, ce qu'on va en faire, et les produits finis, toutes les valeurs qu'incarne cette culture finalement.
Bah, oui, c'est vrai que c'est quand même super intéressant de se dire que tu es arrivé à Aubervilliers et finalement t'as senti que quelque part il y avait des jardins, et ça t'a parlé. Tu dis tu viens d'un milieu rural, et pour toi c'est vrai que c'était quelque chose qui a résonné très vite en toi.
Oui, mais déjà c'est un lieu très étonnant quand on voit Aubervilliers, quand même on se situe dans le quartier, c'est pas un endroit qu'on pense trouver là, même en parlant avec des locaux, c'est pas un lieu qu'ils connaissaient nécessairement, parce que ça reste fermé et entre guillemets privé, parce que chacun a sa parcelle et des gens pourraient y rentrer, mais en même temps beaucoup de personnes veulent faire la pub de ces jardins pour montrer ce qui s'y fait et les valeurs qui en ressortent, et c'est par ça que j'ai été touchée, parce que je sentais qu'il y avait des choses que je pouvais partager, qui m'étaient accessibles, et encore une fois c'est ce paradoxe ruralité-urbanité qui m'a touchée.
Et du coup, quelles sont les personnes que tu as pu rencontrer dans ces jardins finalement ? Parce que tu as suivi Jacques,
ouais.
Donc qui a été vraiment pour toi le fil conducteur de ton film, on peut dire, et qui t'a partagé son expérience. Peut-être que tu peux revenir un peu brièvement sur lui, ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il a été là pendant toute la mobilisation, ou est-ce qu'il est arrivé plus tard ?
Alors lui, c'est peut-être pas un des militants les plus engagés. Il l'a engagé par la manière dont il va vivre les choses, mais maintenant ça va pas être quelqu'un qui va porter de grands discours. Il a été engagé lors des manifestations à Aubervilliers. Maintenant il fait pas partie du collectif de la JAD, donc des Jardins à défendre, mais il est présent et il suit toute l'actualité. Après, pareil, c'est justement en acceptant de tourner avec lui et en espérant faire une sorte de communication avec ça, qui pense qu'il pouvoir justement montrer ces lieux, parce que c'est ça qui est important, les montrer, qu'on voit ce que c'est et que ce n'est pas juste un plan aérien d'un plan de construction. Il faut y rentrer et voir ce qui s'y fait.
Donc en fait, finalement, les jardins donc ce ne sont pas forcément que habités, cultivés par des personnes qui font partie de la JAD. Il y a donc des jardiniers aussi qui sont peut-être, on va dire, moins engagés, on va dire, dans la lutte concrète, mais qui, par tout simplement le fait de cultiver leur terre et par justement la promotion du jardin qu'ils font auprès des gens, quand même, participent à justement permettre une ouverture, on va dire, montrer qu'il y a d'autres possibles qui existent. Et du coup, c'est Jacques en fait partie. Est-ce qu'il a vu déjà, lui, l'occupation qui a eu lieu il y a du coup un an? Est-ce qu'il était déjà jardinier à cette époque-là ou pas?
Oui, il était déjà jardinier à cette époque-là, et lui a pas rejoint directement, a pas occupé, vu que c'est quelqu'un aussi de plus âgé, il n'est pas resté sur les lieux jour et nuit pour occuper, mais il a toujours soutenu cela, il en a toujours discuté avec tout le monde, et c'est justement ce qui manquait peut-être à son discours, c'était des images. Et c'est par moi, là, je crois que c'est passé. Donc, en même temps, en tant que documentariste, on a peut-être cette peur de filmer et de demander de filmer. Mais je pense que les intervenants, eux aussi, demandent à être filmés et ont plein de choses à raconter. Et finalement, aiment à être filmés, alors que c'est toujours un processus un peu délicat quand on ne connaît pas quelqu'un d'arriver comme ça.
Bah, c'est d'autant plus beau d'avoir créé justement cette relation, cette connivence entre vous. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, Jacques, c'est une personne du coup qui a peut-être pas forcément l'âge de militer de manière, corporellement, physiquement, très intense. Et oui, on remarque quand même qu'il y a un militantisme chez les plus jeunes personnes, donc 20-30 ans, qui est quand même très radical et qui se permet de créer des ZAD, se permet de créer des JAD aussi. Dans certains cas. Et voilà, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu as découvert dans les jardins ? Est-ce que la population militante, du coup, était très jeune ? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est plutôt des personnes, assez, des retraités, etc., qui cultivent leur jardin ? Quoi ça ressemble, la sociologie de ces jardins ?
Bah, ça ressemble d'abord aux propriétaires des jardins. Les propriétaires, les locataires des parcelles des jardins sont des gens qui, généralement, ont déjà une situation assez stable, on va dire, d'un point de vue financier et d'habitat. Donc, des personnes plus âgées qui viennent, comme Jacques, par exemple, au moment de leur retraite pour cultiver un jardin, ou alors des gens qui ont hérité de ces jardins, parce qu'en général, ça se passe de famille en famille. Tu as parlé des jardins ouvriers, donc la base dès les années 1930. Et on voit plusieurs générations de jardins qui se sont transmis comme ça parce que beaucoup de gens sont sur liste d'attente pour avoir une de ces parcelles. Et après, une fois que les luttes ont commencé, il y a eu quand même un assez bon élan de médiatisation. Et là, des personnes de l'extérieur, et généralement européennes, se sont joints plus jeunes à leur lutte justement pour l'occupation. Et c'est là qu'il y a eu ce brassage culturel et de nouveau un élan médiatique tout autre qui a...
Donc en fait, il y a eu une sorte d'appel à militants qui a très bien fonctionné, ou même de ralliement spontané de militants plus jeunes, peut-être venus d'ailleurs, en fait.
Oui, ben c'est par la curiosité déjà de ce lieu, un peu comme j'ai été, d'être stupéfait de voir ça et d'être stupéfait par ce projet, que plein de gens ont décidé de se rejoindre, de rejoindre le mouvement, parce qu'ils étaient sensibles à ça et qu'ils ont compris l'unicité de ce lieu.
Ouais, ça, c'est vraiment c'est important parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente d'avoir dans un milieu urbain aussi dense que Paris. Plus de 10 000 mètres carrés de terrain cultivé. En fait, c'est vraiment précieux parce que on le voit bien, notamment avec la chaleur de cet été qui s'est prolongée encore jusque très tard dans l'année, les canicules, les sécheresses. Enfin, vraiment, on est dans une période où on sent que le tout urbain, le tout bétonné, c'est plus possible en fait, et que surtout, pour un projet d'urbanisme qui est lié quand même à les Jeux Olympiques qui sont souvent qui donnent lieu à des débauches de construction massive en béton, c'est quand même un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, il me semble même que il n'y a pas que la gare du Grand Paris Express qui menace les jardins, mais aussi tout simplement un écoquartier. Alors qu'est-ce que cette histoire d'écoquartier?
C'est ça, mais comme tu l'as introduit, c'est étonnant d'avoir une parcelle de 10 000 mètres carrés de terrain en plein Paris, donc ça attire les convoitises, si ce n'est pas d'un point de vue, comme le projet de base de cultiver des jardins, ça va être d'un point de vue financier, soit pour les Jeux Olympiques, et une fois que ça a été abandonné, il y a une partie des jardins qui a été rasée, donc maintenant on a des terres à nu, et il faut absolument les rentabiliser, ces terres. Et il y a eu des projets d'éco-quartier, oui, alors qu'on est dans un quartier justement, comme le précise les jardins, un quartier ouvrier. Et finalement, s'il y a construction de cet éco-quartier qui a déjà commencé sur le site du Fort d'Aubervilliers, qui sera d'un point de vue initié par des projets culturels, mais après par des projets d'habitat, va totalement défiguré peut-être l'ADN de ce quartier, alors que déjà on est sur un prix des loyers qui va augmenter, on sera sur une population généralement parisienne qui va venir habiter là, déjà là avec les jardins, beaucoup de jardins appartiennent maintenant à des Parisiens, et donc des Alberti-Villariens n'ont plus accès à ces jardins, et ça crée aussi une frustration parce qu'il y a ce côté éco qui attire, mais il ne déménage pas. Et c'est ça, ces éco-quartiers. Voilà, on ne va plus être dans les quartiers.
Ouais, en fait, Berger. On passe de quartier populaire à éco-quartier. Quoi. Voilà. C'est quartier bobo, oui. On va dire.
En plus, le problème des éco-quartiers, souvent, c'est ça convoitise aussi à faire. Parce qu'à Saint-Ouen, on a un éco-quartier. Du coup, ils essayent de changer énormément de quartiers comme ça pour implanter des éco-quartiers. À la suite, ça se transforme en... Tu vois, ça devient des quartiers un peu bobos, comme tu disais, avec des super-aides comme Naturalia qui coûtent une blinde pour la population qui est déjà implantée, tu vois. Du coup, c'est un peu ça...
Ah, mais c'est carrément un processus de gentrification affiché, hein, de toute façon.
Mais du coup, sauf quand on ne met pas le thème, tu ne dis pas... Non, c'est un éco-quartier, c'est pour la planète, tu vois, c'est un peu jouer sur la conscience écologique des gens.
Parce que très honnêtement, un éco-quartier, ça ne se résume pas au Naturalia, en fait.
Mais vraiment, c'est ça. Et du coup, d'essayer d'implanter des nouveaux riches, alors qu'il y a déjà une population existante, déjà dans les quartiers, qui ne peuvent pas forcément s'adapter.
Et puis qui fait bien plus pour l'écologie en cultivant des jardins. Oui. que d'aller dans une super aide bio, quoi.
Surtout que par écoquartier, souvent, on entend un nouveau projet social de communication entre les habitants, les voisins, alors que là, il est déjà implanté, ce projet-là. Enfin, je veux dire, c'est naturel, il n'y a pas besoin de l'implanter. Donc, cet aspect de partage qui est aussi issu des jardins, il va être défiguré par ça, et les populations qui sont locales de là vont se retrouver déplacées parce que les loyers vont augmenter forcément. Ouais. Et ça a déjà été le cas dans plusieurs endroits d'Aubervilliers, et finalement on ne fait que repousser le projet, les populations un peu plus loin, et étendre le Grand Paris, ne serait-ce pas que par les transports, mais aussi par l'habitat.
Bah écoute, je pense que ça nous dresse quand même un portrait un petit peu des luttes qu'il y a à Aubervilliers. Je te remercie d'avoir partagé du coup cette expérience que tu as eue donc de documentariste. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on va aller écouter la chanson que tu as prévu de diffuser, et bah, tu vas peut-être l'introduire toi-même.
Oui, mais c'est une chanson avant tout. Je ne sais pas s'il y a tellement un lien avec les luttes, mais moi, elle m'anime personnellement. Et elle tourne aussi autour d'une vigne. Et ça a été aussi le fil conducteur de mon film, car Jacques, la personne que j'ai filmée, a une vigne, comme pratiquement tous les jardiniers là, parce que c'est un endroit très propice à ça. Et voilà, cette vigne va nous animer.
Donc,
maintenant.
Je pense qu'on va écouter « I heard it through the grapevine ». Merci pour le titre, parce que vraiment, j'ai un accent français incroyable, de The Slit.
Plans to make me blue. There's some other girl you knew before, but you have a kind. Joël.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez toujours Délibéré, l'émission des luttes étudiantes du troisième samedi du mois. Donc, on a beaucoup parlé de ton documentaire et de finalement tout ce qui t'a amené en fait à aller filmer les jardins d'Aubervilliers. Maintenant, je pense que on peut revenir plus sur ton expérience militante et celle également de Marianne. Donc peut-être Marianne, tu veux commencer par nous dire un petit peu voilà ton expérience, comment tu en es venue à militer.
Comment on dit, je ne sais plus d'où ça vient ce côté écologie, écolo et militante chez moi, parce que mes parents ne le sont absolument pas. Ils sont plutôt du genre, non mais on a d'autres choses à foutre que de se préoccuper de la planète. Mais je crois que c'était, j'étais en quelle classe, en seconde, je suis tombée sur un bouquin. J'étais déjà très militante, mais le climat, ça ne m'intéresse pas trop. Du coup, j'avais lu un bouquin de Pablo Savini qui parlait de la collapsologie. Et du coup, c'est la théorie de l'effondrement. Et je peux te dire, ça a été vraiment une prise de conscience flagrant. Et pendant des jours, j'ai pas arrêté, après avoir fini le bouquin, j'ai pas arrêté d'avoir des flashs et à me renseigner sur l'état de notre planète et aller lire des revues de scientifiques du coup sur plein de trucs. Et vraiment, ça devenait une angoisse. J'étais là, mais vraiment, il y a une telle urgence. Et j'étais là dans le déni de je fais ma vie, il y a d'autres choses qui me traversaient l'esprit. Du coup, et c'est passé de là, en fait, ce truc de... il serait quand même temps de se mettre à faire quelque chose pour la planète. Même au départ, c'était un peu à l'échelle individuelle. Tu vois, j'en parlais avec des copains qui étaient déjà militants, mais c'était pas des militants écologiques parce qu'on avait d'autres choses à foutre, d'après eux. Et c'est de là, du coup, j'ai commencé à un peu à me renseigner sur des assos, des militants, même au lycée, pour voir. Et du coup, j'avais une prof de philo qui s'avérait être aussi très militante et qui avait des copains qui faisaient partie de plein de mouvements écologistes. Et j'ai commencé à en parler avec elle et ça s'est enchaîné. Et c'était en 2018, et plus précisément en France en 2019, a commencé les marches pour le climat le vendredi, et c'était une révélation incroyable pour moi. C'est le fait de voir autant de jeunes lycéens, étudiants dans la rue avec les mêmes objectifs, essayer de changer quelque chose au niveau planétaire.
Tu parles des Fridays for Climate,
yes, c'est ça? C'est ouais, totalement ça. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très imminent et poignant de voir, parce qu'on était énormes, on était nombreux dans la rue. Et tous les vendredis, voir des jeunes sécher les coups, parce que vraiment, la planète, ça passe avant tout. C'était fort. Voilà. Du coup, je ne sais pas, chacun m'a dit que tu avais participé. Claire aussi au MASH pour le climat les vendredis en Belgique.
Ouais, c'est ça exactement. Et je pense que comme toi, elles sont arrivées au bon moment après une conscientisation. Moi, d'un autre côté, j'ai pas du tout été initiée par la théorie. C'est plus, d'un point de vue pratique et de connaissance dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Je viens d'un milieu rural et ça s'est caractérisé par la connaissance du milieu, de l'environnement, de la nature, de ses attributs, de savoir où je grandissais et comment je pouvais, moi, évoluer et faire évoluer ce milieu. Et j'ai compris que c'était nécessaire parce qu'en général, quand on a les premiers points de vue théoriques qui nous parviennent par rapport à l'écologie, ça va directement être le climat ou des images de déforestation assez lointaines. Il y a toujours cette distance qui est créée, alors qu'on se rend compte qu'on a directement dans les milieux ruraux des impacts qui sont perceptibles directement. Et après, justement, il y a eu cet engouement des marches pour le climat qui sont arrivées à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis justement de quitter cet environnement où j'étais assez seule finalement, parce que je construisais ça dans mon milieu familial, amical et scolaire, à aller dans des quelque chose de reconnu finalement par des institutions et dans des milieux urbains et médiatisés.
Bah, c'est très intéressant, mais en plus, je crois que ça a été le cas pour énormément de jeunes. Souvent, surtout la jeunesse, on avait déjà fait un débat là-dessus, je pense, ici. La jeunesse, et on est souvent assigné comme étant ignorant et de plein de choses, que ce soit sur les crises politiques, économiques. Et là, de voir que non, en fait, c'est maintenant, c'est la jeunesse qui est au cœur des luttes pour le climat. C'est assez impressionnant. Après, il y a d'autres mouvements comme Extinction Rébellion, qui est un mouvement de désobéissance civile. On en avait parlé. La désobéissance, c'est une forme de protestation par la non-violence. Et ça aussi, c'est nouveau parce qu'avant, on utilisait la désobéissance civile pour militer contre d'autres formes d'oppression. Et là, le fait de l'utiliser justement pour le climat, parce que là, on parle de la Terre et c'est quand même l'homme, c'est un peu un truc d'anthropocène, la planète subit en quelque sorte nos actions. Et là, le fait de se dire non, bah justement, on utilise la désobéissance civile pour qui est une action non violente, on pourrait se dire pacifique. Du coup, pour militer pour la planète, moi je trouve ça assez.
Pacifique, mais choc.
Oui, choc. Ça, mais du coup, mais c'est assez. Ça fait écho quand même aux gens de. Oui, du coup. La planète ne veut pas réagir, c'est à nous de changer les choses sous nouveau, les gouvernements, parce qu'il ne faut pas non plus faire culpabiliser la population, parce que les gens ont beau faire des efforts et essayer de changer les choses à l'échelle individuelle, c'est pas assez, c'est pas ce qu'on attend réellement, ça ne changera pas grand-chose. C'est important, continuez vos efforts, c'est très bien, mais bien juste, sûr, il faut quand même rappeler que c'est au gouvernement, aux décideurs, c'est qui ont la prise, les moyens concrets de vraiment faire changer les choses. La COP, mais bon, ils ne font pas grand-chose, certes, mais il faut continuer justement avec ces mouvements de désobéissance ou autres formes de militantisme pour essayer de vraiment d'obtenir quelque chose pour la planète, quoi, parce qu'on ne peut pas rester là.
Bah, c'est sûr qu'on est face quand même à une destruction de la planète qui est systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque individu dans son coin qui a décidé de détruire la planète. C'est un système capitaliste qui nous enferme dans cette logique-là. Et lutter contre ce système, ça devient complètement impossible, presque pour certains. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours aussi, Claire, c'est que tu as vécu ce changement. Du coup, tu t'es passé de finalement ton milieu plutôt familial très très reclus parce que tu vivais quand même à la campagne et vraiment enfin je crois que tu m'as dit quand même que c'était un jardin un peu isolé tout ça et que vous aviez votre potager et tout et t'es passé de ça à quand t'as commencé tes études alors d'ailleurs peut-être tu vas nous dire quelles études t'as faites et tout ça mais t'as commencé tes études forcément en allant dans une grande ville et est-ce que tu as remarqué une différence en termes de, ben voilà, de, soit de prise de conscience, soit de militantisme ? Est-ce que ça t'a marqué ce passage-là ?
Oui, ça m'a marqué parce que moi, j'avais totalement normalisé mes engagements parce qu'aussi le milieu dans lequel j'évoluais avait évolué avec moi. Et donc, j'ai l'impression que tout le monde suivait. Et après, en arrivant dans une grande ville, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la normalité pour tout le monde et que cette éducation que j'avais reçue justement par le militantisme qui avait bien pris à une époque et qui avait influencé beaucoup de monde de mon entourage, ça avait pas pris partout et c'était loin d'être une majorité. Et surtout que moi je définis ce militantisme surtout dans la manière dont je consomme et que l'environnement urbain est tout une toute autre manière de consommer et surtout primordiale, enfin pas primordiale, mais je veux dire, c'est quelque chose d'assez caractéristique de l'environnement urbain, la consommation.
L'hyper-consommation même.
Voilà. Et donc ça a été ce choc et peut-être un effort de résilience aussi de mon côté, de voir que tout n'avait pas changé, en fait.
Bah, tu parles de ton éducation, mais en fait, l'éducation, du coup, il me semble qu'il faut quand même le préciser, mais c'était en Belgique, je crois bien. Et donc, il y a une différence d'éducation en Belgique, parce que nous, très, très personnellement, hein, en France, l'écologie à l'école, Bon, bah,
c'est pas trop abordé. Dans mon lycée, on avait quand même un jardin, on avait un petit potager où on faisait du compostage, mais vraiment,
c'était c'est déjà bien. Hein,
parce que je suis arrivée dans le supérieur quand je vois les consignes où il n'y a même pas de tri.
Bah, c'est ça.
Mais il se passe quoi là?
Et alors, qu'est-ce qui se passe en Belgique?
Eh bien, moi, donc, faut dire aussi, c'était dans une ville de taille moyenne, mais par exemple, le tri, c'est quelque chose qui a toujours été présent, donc ça n'a pas été un effort de construction. Voilà. Et après, ça c'est au moment de justement l'engouement et de la disparition des étudiants dans les classes qu'il y a eu encore plus d'action vis-à-vis de l'école, de l'enseignement secondaire. Donc, encore une fois, dans la manière de consommer, par exemple, tout ce qui était vendu dans des distributeurs, il y a eu un retrait des grandes marques. Tout ce qui était soda, ça a disparu. On ne pouvait plus vendre de soda dans les écoles secondaires.
Mais quelle révolution !
Voilà, donc ce sont des eaux aromatisées. Il y a, par exemple, au niveau des voyages scolaires, il n'y a plus de voyages en avion. Il y a des actions menées.
Je crois qu'on peut vous applaudir.
Voilà.
Bravo, la Belgique.
Ah, oui.
Après, ce n'est pas généralisé dans toutes les écoles, mais celle dans laquelle j'étais aussi, parce qu'il y avait l'environnement encore autour qui se situait bien dans ses valeurs. Et je pense que nombre de nos professeurs étaient sensibles à ça et des étudiants.
Mais c'est quand même assez incroyable de voir cette différence monumentale entre l'éducation en France et en Belgique, alors qu'on est quand même voisins.
Voilà.
Mais c'est très bien, on a encore des progrès à faire. Hein. En revanche, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est est-ce que tu as contacté d'autres milieux militants quand tu es arrivé justement, quand tu as commencé tes études et que tu es arrivé un peu dans des milieux urbains? Est-ce que tu as essayé de prendre contact avec des associations militantes?
Oui, justement, j'ai essayé de m'intégrer parce qu'avant, j'étais pas militante, je veux dire, dans des institutions. C'était dans la manière dont je pratiquais, mais ici, j'arrivais plus à pratiquer cette écologie au quotidien, nécessairement. Donc, j'ai donc essayé d'aller vers des milieux, comme on a parlé tout à l'heure, d'Extinction Rebellion, d'Alternativa, mais j'ai encore du mal à m'intégrer à tous ces milieux. Et après, je participe à des marches encore, mais j'ai du mal à m'intégrer à des milieux desquels je ne suis pas issue, et de totalement comprendre aussi leurs revendications, la pluralité des profils qui s'y retrouvent. Donc, c'est encore un questionnement là-dessus.
Parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas, mais je peux imaginer que pour toi qui avais déjà l'habitude de cultiver tes plantes, etc., de te retrouver face à des Parisiens qui luttent pour la planète tout en prenant des cafés dans des gobelets jetables, tout ça. Bon, il y a peut-être une contradiction quand même. Je sais pas si tu l'as ressenti.
Oui, c'est ça. On comprend totalement qu'on n'arrive pas du tout avec une éducation similaire. On a une éducation, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est arrivée d'un point de vue théorique. Donc ça va pas du tout être la même éducation qu'un point de vue pratique. Et donc, on va pas avoir cette même sensibilité, cette même urgence. Mais maintenant, il y a cette même volonté, je crois. Et je pense qu'il y a ce même pouvoir d'action en alliant justement des profils divers. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi, d'accepter tous ces profils.
Et l'environnement, ça joue énormément. L'environnement dans lequel on évolue la prise de conscience qu'on peut avoir par rapport au climat, c'est comme, par exemple, pendant les matchs du vendredi, j'en avais parlé avec une amie qui me disait pourquoi c'est que des jeunes en Europe qui organisent des matchs, qui ont l'air d'être préoccupés par la planète, alors que, c'est quelque chose, quand on dit la planète, on est tous concernés aux quatre coins du monde. Mais pourquoi c'est très local en Europe? Par exemple, c'est quelque chose de très central ici. Je sais pas, mais on n'a pas tous les mêmes. Il y a énormément d'inégalités dans le monde qui font que souvent tu as l'impression que telle personne est insensible à telle lutte. Alors que non, c'est juste, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, les inégalités environnementales qui font qu'il y a des gens qui sont obligés de se déplacer, les réfugiés climatiques, ou des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, les problèmes liés au capitalisme, où il y a énormément de pauvreté dans d'autres coins du monde. Du coup, ils ont d'autres besoins matériels plus urgents que d'aller militer pour la planète. Parce que pour eux, c'est quand même urgent. La planète, si elle explose, on va tous exploser, quoi. Mais on se dit, peut-être moi, demain, je ne serai plus là, tu vois, parce que je dois me nourrir. Et pour cela, excuse-moi, il y a, il y a un choix à faire, il y a ce truc de... On ne peut pas blâmer non plus tous les gens qui ne vont pas à la marche ou qui ne deviennent pas militantes comme ça ou qui sont pas ont la même conscience écologique que les militants ou d'autres personnes qui pourraient se dire « Ah non, mais la planète, là, il y a vraiment quelque chose à faire. »
C'est sûr qu'en fait, il y a une double, en fait, il y a une double hiérarchie des luttes, c'est-à-dire que à la fois, on a quand même cette hiérarchie entre pays développés et pays émergents. Les pays émergents qui aspirent qu'à une seule chose, c'est juste d'avoir un niveau de vie décent, et les pays développés qui externalisent aisément leurs émissions de CO2 quand même en faisant tous leurs produits manufacturés dans les pays émergents. Donc on a déjà cette opposition quand même entre voilà les pays développés et pays émergents, et à l'intérieur des pays développés il y a une autre fracture qui est similaire mais appliquée aux pays, qui est la fracture entre les personnes les plus riches qui émettent il me semble que c'est 80% de 90% de ce que les plus pauvres en fait émettent. Donc en fait, il y a vraiment une disproportion entre ce qu'émettent les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres au sein des pays développés. Donc on a vraiment à chaque fois ce schéma où on se dit il y a des personnes simplement elles ont des urgences qui sont vitales et du coup l'urgence climatique qui se voit en échelle de dizaines d'années, pour eux c'est même pas possible en fait de l'envisager. Donc voilà, mais je pense qu'on va pouvoir reparler de tout ça un petit peu et de l'actualité, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de débats. Mais d'abord, prenons-nous un petit peu de temps avec une petite pause que moi j'apprécie énormément quand je perds un peu espoir par rapport aux luttes écologistes. Généralement, je me réécoute Ska de la Tierra, donc de Bébé, et après ça va mieux.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, avec moi-même, Mariam, Alix et Claire sur Délibéré, pour parler un petit peu d'écologie. Et dans la dernière séquence donc de notre émission ce matin, on aimerait aborder un petit peu l'actualité, parce que c'est ça en fait qui nous a poussé aussi à faire notre propre émission sur l'écologie. Parce qu'il y a eu quand même un déferlement médiatique assez incroyable ces derniers jours, ces dernières semaines, sur le militantisme écolo. Puisqu'en fait, on a vu qu'ils en avaient marre, les écolos, qu'on les écoute pas. Ils en avaient vraiment marre. Et à tel point que ils commencent à désobéir, mais beaucoup trop. C'est-à-dire que, par exemple, j'aimerais quand même revenir sur une séquence qui a été folle pour moi, qui est celle de la manifestation à Sainte-Soline. Le 29 octobre, donc, des manifestants qui se sont rassemblés en nombre autour d'une méga-bassine. Donc, méga-bassine, je rappelle rapidement, c'est les projets donc, de grandes bassines qui pompent dans les nappes phréatiques l'hiver, sans dessécher les nappes, certes, mais qui pompent cette eau pour la garder pour l'été et irriguer des champs. Le problème, c'est irriguer quel champ? Et c'est surtout irriguer les champs de l'agro-business, en fait, l'agroalimentaire, des plus grandes fermes, ce qui équivaut à peu près à 6% des agriculteurs qui sont, enfin, du territoire, en fait, dans lequel ces bassines sont implantées. Donc c'est vraiment on choisit une agriculture agro-industrielle, en fait. On fait ce choix avec ces méga-bassines, alors qu'on pourrait repenser l'irrigation autrement, pour que voilà, il y ait une meilleure rétention d'eau dans les sols, etc. Donc vraiment, en fait, les méga-bassines, c'est un symbole aussi de ce choix d'agro-industrie qu'on fait. Et ces manifestants se sont rassemblés pour lutter contre ça et dire « Mais non, l'eau, c'est un bien commun, on ne doit pas payer pour y avoir accès, on ne doit pas la réserver que à l'agro-industrie. Il faut que les petits paysans, les petits agriculteurs y aient droit. » Et là, les quelques 7000 manifestants se sont retrouvés entourés par à peu près 2000 policiers pour les encadrer, hein. Voilà, et ça, c'est toujours plaisant. Quelques hélicoptères aussi, il me semble. Bref, on était sur un dispositif qui était disproportionné. Les manifestants n'ont rien fait de particulier à part simplement crier leur colère. Bon, on peut pas dire que ce soit très violent, et ils ont par contre, enlever, enfin en tout cas scier un tuyau donc, qui devait permettre l'irrigation de l'eau dans la bassine, en précisant que ce tuyau n'était pas en fonction, hein, donc c'était pas, ça ne prive aucun agriculteur d'eau, en fait, c'est simplement que ça ralentit le chantier. Donc c'est on peut dire, un acte de sabotage, on peut éventuellement parler de ça, bon, ok. Mais notre cher ministre de l'Intérieur, l'abject Darmanin, lui a préféré parler d'éco-terrorisme. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super, parce que quand même, le terrorisme, en fait, c'est une notion juridique. Et on peut pas l'employer pour des gens qui scient des tuyaux vides, qui plus est. C'est absolument disproportionné. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir votre retour peut-être sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais ils sont vraiment absurdes, tu vois, ce gouvernement. Je sais pas, c'est... Il y a ce truc de dire, non, il y a certaines personnes, mais en fait, souvent, quand tu regardes les infos et les prises de parole du gouvernement concernant les problèmes climatiques, j'ai l'impression qu'ils sont complètement dans un relativisme et dans le déni. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas du déni, c'est juste qu'ils se jouent clairement des gens, parce que ça les arrange pas, ça n'arrange pas le grand capital quand on se préoccupe du climat, parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qui représente le système. Du coup, c'est, par exemple, sortir un thème d'éco-terrorisme, c'est absurde, quoi, comme provenant d'un ministre.
Bah oui, c'est quand même quelqu'un qui est censé avoir des notions un petit peu juridiques.
Là, c'est quand même...
Il sait très bien que quand il emploie ce mot, qu'il effectue un glissement qui est très dangereux.
Plus désolé de te couper la parole, mais on est en plein, quand même, c'est la COP27. Et le mec n'a pas trouvé un autre moment pour sortir... ses propos abjects concernant les militants qui essayent au moins eux de faire quelque chose puisqu'ils sont inefficaces.
Ça, on peut en parler de la COP27 aussi, si vous voulez.
Ah, oui.
Parce que ça, c'est chouette aussi, ça, la COP27, moi j'adore. Bon, alors, en soi, que l'idée qu'on se mette autour d'une table pour effectivement s'accorder entre tous les pays du monde pour éviter la catastrophe climatique, moi ça me va, hein. Honnêtement, le principe est bien. Ça, c'est sûr.
Le principe.
Voilà, le principe. Mais le problème, c'est que les engagements qui y sont pris aboutiraient à une augmentation de 10% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait les baisser de 45%. Donc, de se dire déjà qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que s'il faut baisser les émissions, il faut prendre des mesures en conséquence. On ne peut pas se permettre de dire ça. Et en plus, on se retrouve quand même devant des dirigeants qui mobilisent plus de 400 jets privés pour se rendre à la COP de l'endroit le plus inaccessible du monde, peut-être pas, d'Égypte, on va dire, qui est quand même une ville accessible qu'en jet. Enfin, c'est complètement aberrant. Une COP qui est, en plus de ça, sponsorisée par Coca-Cola, qui est le leader de la pollution plastique dans le domaine du solaire, on va dire. Non, mais vraiment, on se dit... C'est une opération de com' pour calmer éventuellement les quelques écologistes qui commenceraient à s'énerver à couper des tuyaux dans les bassines. Mais en réalité, ils font effectivement une opération de communication.
Ouais, et puis c'est pour ça que j'étais assez surprise par l'enthousiasme de Gabriel quand je l'ai interviewé, parce que, enfin, que ce que je disais sur la fin de l'entretien, que il y avait beaucoup de joie et tout, et alors que moi je trouvais ça assez effrayant l'actualité, et que le gouvernement se permette ce genre de phrase qui est quand même restée assez impunie. Enfin, je trouve ça très très flippant, parce que de donner c'est pas juste faux et insultant de dire l'écoterrorisme pour ces écolos là, mais c'est aussi se donner les moyens ensuite de les empêcher de faire leurs actions, quoi.
De les réprimer complètement. Et ça, le problème, c'est qu'en plus, non seulement ils sont en train de faire passer ça dans si vous voulez, l'opinion publique, parce que c'est ça, l'écoterrorisme, c'est d'habituer les gens à dire que lutter pour l'écologie, c'est très dangereux. Mais en plus de ça, c'est qu'ils se préparent aussi d'un petit arsenal de lois. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la LOPMI, là, qui est en train d'être discutée à l'Assemblée, enfin, qui va être votée, pour l'instant, ce n'est pas le fait, mais on se demande quand est-ce que ça aboutira. Elle vise, en fait, à mettre, elle instaure ce principe des amendes forfaitaires délictuelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un policier pouvait vous mettre une contravention, donc vous deviez payer de l'argent, un certain montant, en différé ou pas. Bon, il y avait tout un tas de règles, mais ça n'apparaissait pas sur votre casier judiciaire. Vous payiez cette amende et vous étiez blanchi. Aujourd'hui, les policiers auront, enfin en tout cas, si la loi est votée, auront la possibilité de vous mettre une amende qui sera considérée dans votre casier judiciaire comme un délit. C'est-à-dire qu'ils se donnent un pouvoir de juge. Et ça, c'est un franchissement quand même dans la répression des luttes qui est massif. Et c'est très important d'en parler en plus, je pense, dans notre émission, parce que ça va concerner effectivement les écolos qui ont créé des ZAD autour des bassines ou autres. Et en plus de ça, les étudiants qui se mobiliseront soit dans les lycées, soit dans les facs. C'est déjà prévu dans l'article que l'occupation d'un lieu d'éducation, d'un bâtiment public, etc., peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Pour un étudiant qui ne peut pas payer cette somme, parce que déjà il est mineur, donc souvent il n'a pas de compte bancaire, et puis pour un étudiant qui est peut-être boursier ou quoi que ce soit, devoir payer une telle somme, c'est déjà quelque chose de terrifiant. Et en plus de ça, ça va être comptabilisé comme un délit, donc ça veut dire que cette personne aura un casier judiciaire. Donc en fait, ils sont vraiment en train de préparer à la fois l'opinion publique à considérer que c'est tout à fait normal de réprimer ce type d'action un petit peu tendancieuse, et également de se prémunir de toute action éventuelle en créant un climat de peur chez les militants qui ont de plus en plus peur de se faire réprimer. Je pense que c'est quand même très important de rappeler que pour lutter, en fait, il faut qu'on garde aussi qu'on fasse passer la légitimité de la lutte. C'est-à-dire que la désobéissance civile, c'est pas un attentat, en fait, à l'État ou au gouvernement. C'est un moyen d'action, c'est un moyen de communication. Et sans ça, on peut pas faire avancer la démocratie, en fait. Il faut bien qu'on ait des leviers pour s'exprimer, et notamment le droit de grève, qui a été lui aussi pas mal estropié par certaines mesures comme la réquisition des grévistes lorsqu'il y a eu la grève dans les raffineries. Donc vraiment, c'est quelque chose de terriblement répressif qui est en train de s'organiser. Et je pense que on a vraiment besoin de se dire qu'il faut garder notre cohérence, parce que c'est vraiment le nombre qui va nous permettre de faire pression, en fait, et de continuer à dire que c'est pas possible, qu'il faut absolument qu'on se préoccupe de notre planète. Et c'est vrai qu'en plus, on donne énormément de bonnes leçons en France, hein, parce qu'on l'a vu déjà à la COP, à quel point notre cher président a bien insisté sur le fait que maintenant, c'était aux pays émergents les plus pollueurs de prendre leurs responsabilités et de réduire leurs émissions. Bon, bah, j'ai parlé effectivement tout à l'heure de la disproportion, en fait, des émissions entre pays émergents et pays développés, notamment parce que les pays développés font faire leurs industries les plus polluantes ailleurs. Elles les délocalisent. Mmh. Donc déjà, il y a une hypocrisie quand même à la base. Et faut savoir quand même que là, on est... avec la crise, la crise de l'Ukraine et pour beaucoup de choses, la guerre en Ukraine et beaucoup de choses, nous ont amené à relancer une centrale à charbon. Donc maintenant, on en a deux qui fonctionnent en France. Et à confier à Total... parce que franchement, Total Energy avait besoin quand même encore d'un petit projet sur le feu, la construction d'un nouveau terminal méthanier qui apporterait du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, dont notamment du gaz de schiste. Et franchement, le gaz de schiste, on a décidé que sur notre territoire, on ne pourrait pas l'exploiter parce que c'était beaucoup trop polluant, notamment pendant l'extraction, mais aussi pendant la consommation, qui relâche du méthane, qui est encore plus polluant que le CO2. Et on se dit que on peut l'importer, donc on va pas l'extraire chez nous, mais on va laisser les pays nous approvisionner. Enfin, c'est vraiment d'une hypocrisie crasse. Et du coup, je pense que c'était important quand même de faire ce petit point. Donc, je vous remercie beaucoup, toutes les trois, d'avoir bien voulu partager vos expériences militantes, de recueillir des témoignages, parler de votre documentaire.
Donc, merci de l'invitation.
J'espère qu'on pourra le voir bientôt. Est-ce qu'il passera en festival ?
Là, il a eu sa première projection suite au montage et il va être mis en ligne via une cinémathèque. Et après ça, on tentera les festivals.
Tu pourras peut-être nous dire son titre un jour d'ailleurs.
Oui, je crois que tu ne l'as pas dit du tout. Non, on n'en a pas parlé. C'est biodiversité, en trois mots. Donc bio, divers et cité avec un C.
On adore les calembours aussi.
Oui. Voilà.
c'est impeccable. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Et je pense qu'on va se quitter sur une petite note quand même d'optimisme avec Here Comes the Sun de Nina Simone, qui va nous ramener un peu de soleil.
Soleil.
The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right. Been a long, cold, long
Thank you.